Le débat africain. Alain Foucault.
S'il est un sujet autour duquel les Africains semblent presque tous d'accord, c'est celui de l'unité du continent. Mais comment la réaliser si les Africains ne se rencontrent pas, s'ils ne sont pas connectés? Si pour aller de Brazzaville à Dakar, ils sont obligés de passer par Paris, pour ceux qui peuvent bien sûr obtenir des visas. Si pour rejoindre un sommet, une conférence ou signer un contrat à Johannesburg en Afrique du Sud, le Malien, le Nigérien doivent passer par Paris, Londres ou Dubaï. Pire, comment expliquer que pour aller de Brazzaville à Yaoundé, capitale distante de moins de 1000 km à vol d'oiseau, soit un peu plus d'1h30 en avion, on soit obligé de passer par Paris ou Bruxelles, soit plus de 24 heures de voyage. Et là, je parle d'expérience. La pandémie du Covid-19 et ses immenses conséquences sur les connexions aériennes est certes passée par là, mais la situation n'était pas tellement meilleure avant elle. Comment en finir avec cette ineptie, ce manque de liaison qui plombe gravement l'intégration continentale que tout le continent appelle de ses voeux? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui exclusivement au transport aérien en Afrique, puisque nous parlerons dans un autre rendez-vous des transports ferroviaires, terrestres et routiers qui ne se portent guère mieux. Plusieurs invités, plusieurs spécialistes dans quelques capitales africaines ce dimanche pour en parler. D'abord, Ibra Biran Wan, directeur général de Aviation & Co., société au service des transports aériens sur le continent, spécialiste du transport aérien. Bonjour Ibra Biran Wan.
Bonjour.
Notre second invité est Abderrahmane Berthe, secrétaire général de l'AFRA, l'Association des compagnies aériennes africaines. Il est en direct aujourd'hui de Nairobi. Bonjour Abderrahmane Berthe.
Bonjour Monsieur Foucault.
Notre troisième invité, Ali Tounsi, secrétaire général de l'ACI Africa, l'Association des aéroports africains. Il est lui en direct de Tunis. Bonjour Ali Tounsi.
Oui, bonjour Monsieur Foucault. C'est un plaisir.
Partagé. Notre dernier invité, pas des moindres, Ernest Dikoum, ancien directeur général de Camerco, ancien directeur régional de Emirates Airlines pour la zone Afrique de l'Ouest et Sahel. Bonjour Ernest Dikoum.
Bonjour.
Alors, dans le domaine de l'aérien, puisque nous allons parler de l'aérien aujourd'hui, comment expliquer que plus de 60 ans après les indépendances, on ne puisse pas aller de l'ouest à l'est du continent? Ma première question s'adresse à Ibra Biran Wan.
Merci Alain. En réalité, on peut aller de l'est à l'ouest du continent et vice-versa. Peut-être que ce n'est pas aussi facile qu'on aimerait que cela soit.
Ah oui, c'est un véritable périple.
Cela dépend. Maintenant, après, vous avez posé une question pertinente. Si vous dites, par exemple, qu'entre Brazzaville et Niamey, c'est difficile de faire ce voyage sans passer par l'Europe, est-ce qu'entre Brazzaville et Niamey, quand vous mettez un avion, vous avez des passagers? C'est là la question qu'il faut d'abord se poser. Est-ce qu'il y a d'abord une intention de connectivité entre nous ou pas? Ensuite, vient la notion de masse critique. Est-ce que, pour mettre un programme de vol entre deux paires de villes en Afrique, nous avons le marché nécessaire? Ce sont les questions d'abord qu'il faut se poser.
Alors, si je vous comprends bien, vous voulez dire que, commercialement parlant, ça n'a pas d'intérêt?
Non, je ne dis pas, je constate. Vous avez des paires de villes où, effectivement, vous mettez plusieurs avions, vous aurez toujours des avions remplis. Vous en avez d'autres, vous mettrez des avions, même si vous donnez des billets gratuitement, vous n'avez pas de passagers. Bon, ça, c'est des tas. Maintenant, après, est-ce que la connectivité entre nous, elle est d'abord naturelle? Est-ce qu'elle existe pour que le transport aérien vienne satisfaire un besoin? C'est d'abord les premières questions qu'il faut se poser avant de constater les difficultés que nous rencontrons.
Oui, mais là, vous posez une question quand même grave. C'est de savoir si c'est important qu'il y ait une connexion. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas une urgence à ce que les Africains se voient et commercent entre eux?
Je ne dirais pas ça. Si, il y a une urgence à ce que les Africains se voient et commercent entre eux, bien évidemment. J'étais en train d'être sur le terrain factuel, de dire ce qui se passe exactement aujourd'hui. Mm-hmm. Commençons par le commencement. Disons, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Au plan mondial, il y a 4,5 milliards de passagers transportés par an, l'année dernière, par les compagnies globalement dans le monde. Mm-hmm. L'Afrique ne participe que pour 2,4% de ce trafic. Mm-hmm. Les compagnies aériennes, globalement, ont gagné 26 milliards de dollars en bénéfices nets par an, l'année dernière, avant le Covid. Les compagnies africaines ont perdu collectivement, et je parle sous le contrôle d'Abderrahmane Berthe, au moins 200 millions de dollars. Les compagnies aériennes ont nettement amélioré leur marge globalement dans le monde et leur productivité pour atteindre des taux de remplissage de 82%. les compagnies aériennes africaines tirent ce taux-là vers le bas avec une moyenne globale de seulement 71%. Mmh. Voilà le constat.
Alors, quand on a fait un constat aussi catastrophique, comment cela s'explique? Est-ce parce que les Africains ne veulent pas voyager sur le continent? Est-ce parce qu'il manque de véritables compagnies qui puissent les lier? C'est quoi la réelle explication, Ernest Dicom?
Déjà, en termes d'explication, je pense qu'il serait important de revenir sur deux points qui ont été évoqués par mon prédécesseur. On va parler beaucoup plus, revenir sur la masse critique et l'intégration des communautés. Nous avons un sérieux problème au niveau déjà d'identifier la segmentation de cette clientèle. Est-ce que nous parlons des besoins de l'homme d'affaires qui doit se déplacer d'un point A à un point B? Alors nous parlons de la clientèle d'une visite familiale. C'est très important parce que quand on parle de masse critique, les déplacements entre les pays africains qui peuvent être faites de manière régulière ne peuvent être faites que par les hommes d'affaires. Ils sont combien qui se déplacent d'un point A à un point B? Si on arrive déjà à identifier les pôles d'intérêt qui sont les plus intéressants entre, par exemple, Abidjan-Dakar, Bamako-Dakar, Yaoundé et, par exemple, Libreville et tout, nous allons déjà procéder à une sélection et cantonner le problème en se disant comment on arrive déjà progressivement à développer des solutions par rapport à ces pôles-là. L'Afrique, c'est un continent qui est très vaste et nous ne pouvons, il est impossible, même en tant que professionnel de l'industrie, résoudre tous les problèmes en même temps. Donc, moi, je voudrais déjà peut-être faire une différence entre les pôles d'intérêt qui peuvent avoir un flux important de trafic. Et maintenant, il y a des pôles secondaires. Et pour les pôles secondaires, on ne peut que faire la mutualisation commerciale entre les petites compagnies et les grandes compagnies.
Alors, là, vous entrez dans le technique, parce que nous, on veut être très, très terre-à-terre sur des choses qui concernent ceux qui nous écoutent en ce moment. On est en train d'entendre que, en réalité, il n'y a pas un véritable besoin. C'est comme ça qu'on doit comprendre la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de voyageurs pour qu'il y ait une vraie compagnie et que les connexions soient meilleures. Est-ce que je pourrais résumer ça comme ça, Abderrahmane Berthé?
Merci, monsieur Foka, pour cette question importante. Comme l'a dit un de mes prédécesseurs, le transport aérien africain représente moins de 3% du transport mondial, mmh. alors que la population africaine représente 17% de la population mondiale. Mmh. Lorsqu'on parle de connectivité, je voudrais faire une remarque. Ce n'est pas la connectivité qui crée le commerce, c'est plutôt, je pense, le commerce, le tourisme, qui va créer le besoin de transport et donc la connectivité. Quand on prend l'Afrique aujourd'hui, le commerce intra-africain représente 16%, alors que dans d'autres régions du monde, il va jusqu'à 64% ou 50% en Europe et en Asie. Donc les pays africains commercent très peu entre elles. Aussi, le niveau du tourisme intra-africain est très, très faible. Un autre élément important est le développement économique et le développement humain. Quand on regarde le produit intérieur brut par habitant en Afrique, il est relativement très faible. Et le niveau du produit intérieur brut impacte le niveau du transport aérien.
Mais moi, j'ai envie de comprendre, parce que lorsqu'on vous écoute tous, du point de vue commercial, c'est pas intéressant. Et du coup, on se dit, l'idée de l'unité africaine, l'idée d'intégration africaine, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, les Africains ne se connaîtront pas, ne se rencontreront pas parce qu'il n'y a pas assez d'hommes d'affaires, parce qu'il n'y a pas assez de business qui se fait sur le continent. Est-ce que j'ai bien résumé, Ali Tounsi, ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de marché qu'il n'y a pas de connexion? Et est-ce que c'est parce qu'on ne commerce pas assez qu'il n'y a pas assez de connexions?
En fait, ce que je peux dire, c'est la raison du voyage ou de l'attractivité de la destination. Je vous donne un petit exemple. Si je vous offre un voyage maintenant gratuitement avec prise en charge en Syrie, par exemple, ou en un pays en guerre, même si c'est gratuit, vous n'avez pas risqué votre vie.
Alors, en fait, le voyage est toujours lié à la raison du voyage. Et on peut résumer ça en deux choses. Soit le loisir et la famille, et les visites, le tourisme, tout ce qui est visite de famille par les ressortissants et tout ça. Soit les affaires. Alors, le loisir et le tourisme, et en Afrique, c'est très, 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 très peu développé, à part quelques centres. Mais la majorité des pays africains, à part le nord et le sud, et un peu quelques pays de l'ouest, il n'y a rien. Et puis, les affaires, le business, l'attractivité et les opportunités d'investissement et du business. Et là, c'est très divergent entre les pays. Et aussi, c'est lié à la situation économique du pays et de son attractivité. Et s'il n'y a pas d'opportunité, alors il n'y a pas de business et alors il n'y a pas de voyage. C'est simplement l'attractivité de l'Afrique. Elle est faible par rapport pour développer un réseau de trafic aérien rentable.
C'est quand même grave. Lorsque l'on sait que tout le monde se bat pour venir sur le continent, lorsqu'on voit comment les grandes compagnies se déploient pour faire des destinations sur le continent, et qu'on entend, vous, les professionnels de l'aviation civile en Afrique, de l'aviation commerciale en Afrique, dire il n'y a pas d'attractivité et que finalement le marché n'atteint pas le seuil qu'il faut. C'est grave, Ibra Biranouane, lorsqu'on entend ça. C'est désespérant.
Alors là, Alain, vous touchez du doigt effectivement un problème qui nous dépasse, qui transcende l'aspect aviation pure. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons plus de relations nord-sud que de relations sud-sud ou est-ouest, si vous voulez, si on reste dans le même continent. C'est vrai, le trafic international est beaucoup plus important que le trafic intra-africain, que le trafic régional ou même le trafic domestique pour la plupart des pays en Afrique. Et comme disent mes prédécesseurs, tous d'ailleurs l'ont reconnu, c'est là où il y a un courant de trafic, là où il y a un courant donc d'échange, là où il y a un besoin d'échange, que le transport aérien en tant qu'instrument va venir satisfaire ce besoin. Malheureusement, c'est comme ça. Effectivement, quelquefois, on peut dire que le trafic crée le besoin. Ce n'est pas tout à fait exact. Si demain, nos hommes d'affaires ouvrent des opportunités à faire des affaires entre eux, ça va faire des courants d'échange. Le problème que nous avons, c'est le côté extraverti un peu de nos économies. Et aussi même de nos relations au loisir et au tourisme. C'est que le trafic, il est beaucoup plus intercontinental que continental en ce qui nous concerne.
Mais on a vu, il y a quelques décennies, créer Air Afrique, qui reliait quasiment toutes ces capitales-là au quotidien. Je n'exagère peut-être pas, et je pense que, Ibra Biranouane, vous étiez au sein de cette compagnie pour le savoir. Comment ça marchait alors? Puisqu'à cette période-là, on a le sentiment que ça marchait mieux et que les gens se rencontraient mieux et qu'il y avait un meilleur courant d'affaires, que le Sénégalais pouvait vendre au Cameroun ou que le Camerounais pouvait vendre au Rwanda. Est-ce que ça n'a pas tout simplement reculé, Abderrahmane Berthé?
Oui, je peux pas vous donner le détail sur l'expérience de Air Afrique. Il est clair que Air Afrique, avec un réseau assez important couvrant l'Afrique francophone.
Et même au-delà.
Vous citez Air Afrique, mais il y a eu d'autres compagnies dans la zone Afrique de l'Est aussi, multinationales, qui ont été créées et qui ont disparu. Elles ont été remplacées par des petites compagnies. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces petites compagnies, petites relativement, c'est-à-dire qui ont entre 5 et 10 avions, ne coopèrent pas suffisamment entre elles pour créer la connectivité nécessaire pour les passagers. Mais je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que vous disiez par rapport à l'attractivité de l'Afrique par les compagnies non africaines. En réalité, les besoins de transport, la connectivité suit les besoins de transport. Après les indépendances, l'Afrique faisait beaucoup plus de commerce vers l'Europe, vers les anciennes colonies. Mais depuis une vingtaine d'années, vous allez voir que les Africains font beaucoup de commerce vers l'Asie et beaucoup de compagnies africaines ont un réseau assez densifié vers l'Asie aujourd'hui.
On va en parler parce que je pense que vous faites allusion à Kenya Airways et je pense que vous faites également allusion à Ethiopian Airlines. Avant de parler de ces compagnies-là, j'ai envie de comprendre, et là je vais revenir à Ibra Biranouane qui était au sein d'Air Afrique. Comment expliquer qu'Air Afrique ait pu exister et pu connecter l'ensemble des pays dont on parle aussi longtemps et que, après sa disparition, ça va bientôt faire 30 ans, je crois, il n'y ait pas quelque chose qui est remplacé? Est-ce que le mal ne vient pas du fait que vous ne vous réunissiez pas et qu'il y ait une vraie compagnie qui couvre le continent. Chacun a envie d'avoir son pavillon.
En effet, et là, vous en venez peut-être un peu aux solutions que vous nous proposiez. Effectivement, la mort d'Air Afrique n'a pas été remplacée, n'a pas été compensée, si je puis m'exprimer ainsi, par la prolifération de toutes ces petites compagnies qui ont vu le jour après cela. Air Afrique, ça marchait très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette volonté de mutualiser, comme disait mon ami Ernest tout à l'heure. C'était d'abord...
C'est une volonté politique.
Associations d'États qui ont mis ensemble leurs moyens pour pouvoir atteindre cette masse critique dont on parlait et pour pouvoir offrir une connectivité extrêmement dense, importante. Et là d'ailleurs, ce point, on peut dire que Air Afrique a permis à des États de se connecter. Ce n'était plus cette fois-ci le besoin de connectivité qui créait le trafic, mais c'était une relation plutôt dynamique entre ces deux concepts.
Mais vous conviendrez avec moi que c'est difficile à comprendre qu'un continent avec un tel potentiel, avec une telle population, ne puisse pas avoir des compagnies aériennes qui puissent bénéficier de cela. Est-ce que ça ne vient pas du fait que chacun veut avoir sa compagnie?
Oui.
Et que ça ne peut pas marcher, n'a pas les moyens de se battre sur ce terrain tout seul.
C'est évident, c'est ce que nous disions. La prolifération de ces compagnies ne mènera nulle part, parce que vous avez des compagnies qui ont entre 2 avions maximum. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas 10 compagnies aériennes qui transportent plus d'un million de passagers par an. Les compagnies, les majors dont on parlait tout à l'heure, elles sont au nombre de moins de 10. Elles sont au nombre de 8 ou 9, tout simplement, qui font plus d'un million de passagers par an, pas plus. Vous vous rendez compte? Pour un continent qui compte 54 pays au moins. Alors, il est clair que si on ne mutualise pas, et là je viens dans les solutions, si on ne mutualise pas les moyens, si les États ne se regroupent pas, si on ne crée pas des compagnies multinationales, sous n'importe quelle forme, multinationale ne veut pas forcément dire, par exemple, le modèle d'Air Afrique tel qu'il était. On peut toujours trouver des solutions pour pouvoir mutualiser les efforts et mutualiser les moyens entre les États pour créer des acteurs qui puissent offrir un produit de standard international et participer au transport aérien international. Pour de quoi, les autres compagnies vivront les années qu'elles vivront et puis disparaîtront et d'autres naîtront encore.
Et elles naissent et meurent à un rythme effréné. Mais on a envie de dire, on a Ethiopian Airways qui marche très bien, on a Kenya Airways qui marche très bien, qui relie le nord et le sud et qui fait l'intracontinental. Comment expliquer le succès de cet outil, Abderrahmane Berthe?
Oui, on a quelques compagnies aériennes africaines qui s'en sortent très bien. Elles ont un réseau assez efficace. Elles ont un modèle, je dirais, d'affaires qui leur permet de prospérer. Je pense aussi que les compagnies aériennes africaines doivent revoir leur façon de faire. La plupart des compagnies aériennes africaines sont détenues en majorité par les États et ont des problèmes de gouvernance et de management qui ne parfois ne pas orienter efficacité et résultats. Alors je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que la solution d'une multinationale soit une panacée. Moi je pense plutôt qu'il faut une coopération entre les compagnies aériennes sous plusieurs types. Elle peut être capitalistique, commerciale, technique.
Justement, on va en parler dans la seconde partie du débat africain, puisque nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. Nous parlerons de solutions dans cette seconde partie, et de façon très très claire, puisque là, vous entrez dans le vif du sujet. On verra quel modèle il faut, et comment susciter la volonté politique qui fait que les Africains puissent s'intégrer enfin, qu'il puisse y avoir des connexions intra-africaines. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite du débat africain consacré au transport aérien en Afrique. À très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Qu'il paraît loin et irréel le temps où la compagnie Air Afrique reliait Kaïn Kaha, les capitales africaines, entre elles. Elle faisait certes l'objet de toutes les critiques, mais elle remplissait une fonction essentielle dans la volonté d'intégration dont rêvent les Africains aujourd'hui. Il n'était point besoin de partir de Kinshasa à Niamey en passant par Paris, comme c'est presque devenu la tradition aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat africain consacré au transport aérien en Afrique. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, Ibra Biran Wan, directeur général de Aviation & Co, société au service des transports aériens sur le continent, spécialiste du transport aérien, ancien cadre d'Air Afrique. Il est en direct de Dakar au Sénégal. Notre second invité est Abderrahmane Berthe, secrétaire général de l'AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines. Il est en direct aujourd'hui de Nairobi, la capitale kényane. Notre troisième invité est Ali Tounsi, secrétaire général de l'ASI Africa, l'association des aéroports africains. Il est, lui, en direct de Tunis. Notre dernier invité, pas des moindres, est Ernest Dikoum, ancien directeur général de Camerco, la compagnie camerounaise, ancien directeur régional de Emirates Airlines pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il est en direct de Dakar au Sénégal. Voilà pour nos invités. Dans la première partie de ce magazine, on a un peu fait l'état des lieux. J'ai envie qu'on aille aux solutions. Lorsqu'on a parlé de la mutualisation, Ibra Biran Wan dit « Et si on pensait à une grosse multinationale, et parlant de multinationale sans dire ce soit forcément les États, mais une grosse multinationale qui relie l'Afrique, est-ce que ce n'est pas l'une des solutions urgentes, Ernest Dikoum ?»
Oui, c'est pas une solution vraiment urgente. Je suis un peu plus d'accord avec M. Berthe dans le cadre de la mutualisation et les techniques de collaboration entre les compagnies aériennes. Je pense que le développement du secteur passera forcément par la mutualisation des ressources sur le plan de la formation, de la maintenance, de l'exploitation des réseaux. Je reviens sur un petit point. Tout à l'heure, on parlait de partir de l'Afrique d'un point en Afrique, passant par l'Europe pour revenir. Il y a 30 ans, lorsque on regardait le réseau de Air Afrique, on pouvait partir et faire la côtière, faire par exemple 4 ou 5 stops avant d'arriver peut-être en Afrique centrale à partir des points comme Dakar. Aujourd'hui, un homme d'affaires qui devrait partir a déjà un facteur temps à gérer. Donc les comportements aussi ont changé et ont évolué. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que les compagnies aériennes, au-delà du vœu qui est annoncé par les États, Le Open Sky africain et autres, il faudrait que les compagnies aériennes africaines commencent à travailler ensemble pour qu'il y ait des relais. Si quelqu'un part d'Addis Abeba, arrive par exemple à Douala, il pourrait prendre une compagnie Tchadia pour arriver à N'Djamena, au lieu que cette compagnie fasse tous les points pour pouvoir imposer. Et là, je pense que ça va plus faciliter le trafic en Afrique et ça va permettre une meilleure fluidité des opérations économiques.
Oui, mais quand on voit le poids de la plupart des compagnies qui naissent, elles n'ont pas les moyens d'entretenir ces avions, de faire les parcours qu'elles font. Est-ce que vous parlez de mutualisation, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail réel à se réunir, à faire quelque chose de plus costaud à l'Itoudsi?
Oui, en fait, il faut éviter quelque chose qu'on n'a pas réussi à éviter, c'est le protectionnisme et le nationalisme. En fait, comme vous dites là, il y a l'émergence de beaucoup, beaucoup de petites compagnies qui ne subsistent pas quelques années, et c'est un fiasco. Et certains gouvernements ne veulent pas comprendre qu'il n'est pas rentable de mettre un drapeau sur une compagnie. On peut utiliser des compagnies soit du secteur privé, soit mutualisées, soit d'autres pays avec des accords, pour optimiser les ressources et pour la rentabilisation. Sinon, si on continue, on maintient ce protectionnisme et le nationalisme des compagnies aériennes. On ne sera jamais optimisé et on ne sera jamais rentable. Et la situation est de telle maintenant qu'on ne s'assoit pas sur la table. Et ça, c'est le problème de la libéralisation de l'espace aérien, de Yamato Group.
Oui, mais on a envie de vous répondre que lorsque l'on va aux États-Unis ou lorsqu'on arrive en Europe, le ciel est tout aussi protégé. Il y a un vrai protectionnisme de ce côté-là. Pour qu'une compagnie africaine vienne sur le continent européen ou aille aux États-Unis d'Amérique, il est obligé de passer par des procédures qui sont très très longues et où c'est véritablement une protection, non?
C'est pas le même protectionnisme.
Mais ça reste le protectionnisme.
Oui, c'est le protectionnisme des marchés, mais En fait, c'est la masse critique, c'est-à-dire créer une compagnie dans un petit pays où il n'y a pas de trafic, ça rime absolument à rien.
Ça rime
c'est pas rentable. Mais sur certaines routes, si on protège, parce qu'il y a de la masse, et là, on se partage le marché. Et on ne peut pas comparer deux choses incomparables. Mmh. Et c'est le problème de l'Afrique, c'est le taux très, très faible de trafic.
Alors là, on se retrouve devant une réalité. Les petites compagnies sont obligées de disparaître. Il n'y a pas de grosses. Qu'est-ce qui explique le succès de Ethiopian Airlines et de Kenya Airways? Et pourquoi ne partirait-on pas de ce gros modèle, mais pour émailler l'Afrique, Ibra Biranwan?
Ethiopian Airlines, c'est d'abord une compagnie qui est très très vieille, hein, mm-hmm. de 1945. Mm-hmm. Elle a été préservée, elle a été couvée par l'État éthiopien, faut pas croire. Elle a été soutenue pendant très longtemps et elle continue de l'être d'ailleurs. Et donc, on l'a laissé.
Mais comme les autres grandes compagnies en Europe, hein, je veux dire, on vient de renflouer largement en France, par exemple, les KLM.
Bien entendu, bien entendu. Et donc, on l'a laissé prospérer dans un environnement qui lui est très favorable et surtout qu'elle a survécu quand même à des guerres. Et Ethiopian, donc, c'est dans la durée que les choses se passent. Elle a pu construire pendant 70 ans donc une compagnie aérienne qui aujourd'hui est une compagnie de classe mondiale. Bon, évidemment, maintenant après, il y a le coefficient propre personnel des Éthiopiens, le management qui est correctement encadré. Et puis, c'est quand même un grand pays. L'Éthiopie, elle seule, constitue la masse critique dont je parlais.
Moi, j'ai le sentiment, hein, mais je me trompe peut-être, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, qu'il faut absolument l'intervention des politiques dans cette aventure. Pas l'intervention d'un État, l'intervention des politiques pour clairement définir comment organiser le transport aérien sur le continent pour qu'il soit à la fois pour l'économie africaine, mais également pour permettre les connexions entre les hommes. J'ai tort quand je dis ça, Ernest Dikoum, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par là, déjà, pour se dire on s'arrime sur ce qui marche? Et on s'organise pour créer des synergies entre ces compagnies qui résistent pas les plus petites.
Je suis d'accord, Alain, mais il faut déjà se poser la question de savoir si les politiques écoutent les professionnels. Et permettez-moi de revenir autour de cette émission. Vous avez autour de, je dirais peut-être de ceux qui sont les intervenants, minimum chacun 25 à 30 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, il est important que les politiques en Afrique commencent à écouter les professionnels du secteur. Lorsque nous parlons, par exemple, des grosses compagnies africaines, on doit être face à la réalité telle que le transport aérien a ses méthodes et a ses critères. Le transport aérien doit passer par des hubs. Donc, normalement, l'Afrique aujourd'hui devrait faire, par exemple, comme si on prend l'exemple des États-Unis, où il y a eu une certaine libéralisation dans les années 70, vous allez constater que même les compagnies comme United auront un hub à Chicago, auront un hub à Washington, auront par exemple un hub à Los Angeles pour pouvoir desservir ce besoin d'interconnectivité. Donc nous avons les majeurs, nous devons avoir les compagnies moyennes et nous devons avoir aussi les petites compagnies. Mais si les majeurs ont la capacité par exemple de vouloir aller partout, regardez ce qui s'est passé avec Ethiopian. Ethiopian était obligé d'avoir un partenaire en Afrique, vers l'Afrique, le Golfe de Guinée, donc à Lomé, avec Askaï, pour essayer de tenir dans les deux pans du continent africain. Mais jusque-là, ce n'est peut-être pas possible de couvrir toute l'Afrique. Parce que pour quelqu'un, on a ce qu'on appelle dans le langage le backtracking. Vous allez m'excuser d'être un peu technique, mais c'est inévitable pour pouvoir expliquer ça. Le hub d'Éthiopien se retrouve en Afrique de l'Est. Vous allez prendre des passagers qui vont partir de l'Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique de l'Est avant d'aller en Amérique. C'est pratiquement impossible. Donc, nous devons trouver des pôles régionaux et se rassurer que l'autre compagnie qui arrive, une autre peut faire le relais. Et ça, c'est l'interligne qui s'établit. Et je crois que M. Abdourahman a des ateliers qui travaillent déjà par rapport à ces projets au niveau d'AFA. Et c'est ça qui va servir l'Afrique aujourd'hui au niveau des solutions idoines pour vraiment ouvrir le continent au marché extérieur.
Justement, là je me tourne justement vers Abderrahmane Berthe, qui est le secrétaire général de l'AFRA, qui est l'association des compagnies aériennes africaines. Est-ce que vous qui travaillez avec toutes ces compagnies, vous ne voyez pas l'urgence de se mettre ensemble, de mutualiser leurs forces?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. La mutualisation est quelque chose de nécessaire. Non seulement elle permet de réduire les coûts, mais aussi d'accroître les revenus des compagnies aériennes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un certain nombre de projets dans ce sens. Et pour ce qui concerne la connectivité, nous avons un comité qui réunit nos compagnies membres pour voir ensemble comment améliorer la connectivité intra-africaine. Parce que je reste persuadé que l'Afrique est un continent très vaste et il nous faut des compagnies de taille globale, mais elles ne pourront pas seules assurer toute la connectivité en Afrique. Il nous faut aussi un système de transport où nous avons des compagnies régionales à ses portes qui puissent coopérer avec les compagnies globales pour assurer cette connectivité. Les petites compagnies avec un nombre limité d'avions auront du mal à prospérer. Je reconnais qu'elles ne seront pas viables à terme.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme dans le domaine des banques ou des assurances, dire si on n'a pas tel nombre d'avions, on ne peut pas faire du régional. Si on n'a pas tel budget, tel capital, on ne peut pas faire du régional. Peut-être que ça obligerait un certain nombre de gens à se mettre ensemble.
Bon, nous sommes quand même dans un marché de type libéral. Donc,
mais la banque aussi, c'est un domaine libéral.
Elle doit être laissée aux promoteurs de compagnies aériennes. Mais je pense surtout, comme l'a dit M. Dikoum, il faut que les décideurs, parce que la plupart des compagnies aériennes africaines sont quand même détenues par les États, mm-hmm. il faut que les décideurs écoutent les professionnels pour savoir que aujourd'hui, lorsque vous écoutez les ministres des Transports en Afrique, chaque ministre va dire « je veux faire de ma capitale un hub en Afrique ». Cela n'est pas possible, on ne va pas avoir 54 hubs. Il faut qu'on se ravise, qu'on sache que le continent africain, à terme, il y aura peut-être maximum 10 hubs avec des compagnies de taille globale et des compagnies régionales qui coopèrent dans ce système avec les compagnies globales.
Alors, lorsqu'on vous écoute, il n'y a pas assez de passagers, il n'y a pas assez de trafic pour que les compagnies marchent bien, pour qu'il y ait de grosses compagnies, pour qu'elles fassent des bénéfices. Mais en même temps, les tarifs sont quasi prohibitifs. Lorsqu'on lit ce que les gens disent sur les compagnies africaines, on dit qu'elles sont beaucoup trop chères. Qu'est-ce qui explique ce tarif élevé des compagnies aériennes à l'étonci?
En fait, il y a plusieurs facteurs, essentiellement les carburants, les taxes gouvernementales, qui sont un peu exorbitantes, parce que certains gouvernements supposent que le transport aérien, c'est un produit de luxe qu'il faut surtaxer, et on a pas mal d'exemples. Et puis, la rentabilité, vu les faibles trafics et les coûts élevés de la maintenance de l'infrastructure, surtout dans les aéroports. Un aéroport, pour un avion, pour 10 avions, ça coûte le même coût de maintenance. Mmh. Et alors, tout ça se fait répercute sur les redevances, les taxes. Et d'autre côté, comme a dit M. Berthet et toute l'équipe là, vu que la rentabilité est très faible, et ça augmente automatiquement les coûts des billets.
Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer que les tarifs baissent pour démocratiser le transport aérien en Afrique, qu'on ne peut pas espérer des compagnies low-cost sur le continent qui permettraient de relier les capitales.
En fait, le low-cost, c'est le management, c'est les États, par exemple. Et c'est ce qu'on remarque, ça, c'est une des solutions qu'ils peuvent apporter, c'est de développer le low-cost sur l'Afrique. Et ça, c'est le gouvernement, les décisions politiques qui interdisent ça. Mais si on aura l'émergence de compagnies low cost, comme par exemple ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, le développement de low cost a développé énormément, il a démocratisé le transport aérien en effet. Mais en Afrique, c'est très très peu, on ne trouve pas de low cost.
Encore la volonté politique. Pourtant, on voit quelques low cost arriver sur des pays comme le Kenya et le Sénégal, Ibra Biranwan.
Surtout en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya, en effet. Les low cost, c'est pareil, on revient toujours au même point, demandent une masse critique. Mm-hmm. Les low cost évoluent dans un environnement qui n'est pas l'environnement des compagnies de network, comme on dit, c'est-à-dire les compagnies traditionnelles. Les low cost réduisent le maximum de services, le maximum d'intermédiaires, et donc les coûts, comme son nom l'indique. Tandis que nous sommes dans un environnement où, effectivement, il faut beaucoup de services aux populations. Juste un exemple pour illustrer, le low cost ne fonctionne qu'avec la vente en ligne, par exemple, la carte de crédit bancaire. Le taux de bancarisation dans nos États est très très faible. Ça, c'est un exemple.
Mais bon, maintenant, il y a le mobile money, donc ce qui compense un peu.
Oui, un peu, ça commence à venir. Et donc, dans les pays où, effectivement, ces développements-là ont été faits, notamment le Kenya, qui a développé justement le système dont vous faites allusion, l'Afrique du Sud ou le Nigeria, donc, qui ont donc des masses critiques et qui permettent d'avoir une population qui constitue un bon marché. Mais j'aimerais quand même insister sur un point et rejoindre mes co-débatteurs, parce que la solution dont on parlait, quand Abdourahmane Berthe parle de chaque pays qui cherche à avoir son hub, et c'est vrai que ce n'est pas possible, mais pour que les gens comprennent tout cela, il faut que les pays comprennent que c'est en mutualisant, c'est en s'associant qu'on comprendra qu'effectivement, il va falloir serrer les choses et puis faire une sorte de distribution des rôles. Il y a des pays, il y a des capitales qui seront des hubs, d'autres qui ne le seront pas. Mais il faut que les pays l'acceptent. Revenons à l'exemple d'Air Afrique. À l'époque, Air Afrique avait réussi à faire de Abidjan, Dakar et Brazzaville ses trois principaux centres, alors qu'il y avait 11 pays membres. Il a fallu que les pays l'acceptent, que chacun comprenne que l'intérêt de la compagnie, c'était d'avoir de grands centres dans des endroits où cela se justifiait. Dakar était un mini-hub qui menait vers l'intercontinental, vers l'Amérique du Nord. La Côte d'Ivoire était le principal hub, Abidjan, pour tout le reste de l'Afrique. Et puis Brazzaville était le hub qui menait vers le reste de l'Afrique du Sud, etc. C'est la mutualisation, pas forcément la création d'une compagnie multinationale à l'image d'Air Afrique, parce que peut-être que là, politiquement, ça risque d'être compliqué à faire et peut-être que ce n'est plus dans l'air du temps aujourd'hui. Mais être individuel, des compagnies, la prolifération des compagnies individuelles en Afrique qui disposent de très peu d'avions, je ne crois pas que ce soit la solution pour améliorer les faibles parts de marché que les compagnies africaines...
Alors, entre vous, spécialistes de l'aviation civile, peut-être que c'est le débat que vous devez continuer d'avoir et de trouver la meilleure des solutions. Mais j'ai envie de terminer en disant, est-ce qu'il existe en deux mots une solution pour qu'on en finisse avec ce système qui veut que quelqu'un qui veut partir d'un coin à l'autre de l'Afrique reste sur le continent en avion? Ibra, en un mot.
Affirmatif. Ou bien vous avez une compagnie globale, ou bien vous avez des compagnies qui coopèrent entre elles et qui donc échangent le trafic au niveau de certains hubs, tout simplement tout au long du parcours.
Ernest Dikoum, en un mot également.
Oui, je pense qu'il faudrait plus l'implication des professionnels et moins la pression des politiques. Je pense qu'il faut que le schéma du réseau d'interconnectivité africain soit pensé, soit travaillé et qu'on puisse impliquer... créer les sociétés de métiers. Nous avons les compagnies aériennes...
Comme on arrive au terme, je voulais un mot. On va parler aux professionnels. Les professionnels devraient être écoutés par les politiques. Abderrahmane, en un mot.
Je suis optimiste. Je pense que, comme vous le savez, l'Union africaine a lancé le marché unique du transport aérien africain. C'est quelque chose qui est en cours, qui va améliorer la connectivité liée avec la zone de libre-échange commercial en Afrique.
Mais pour l'instant, ça reste un vœu.
Là, les compagnies aériennes devraient coopérer entre elles aussi.
Encore la coopération. Je voudrais donner une seconde également à M. Tansi.
Oui, en fait, comme tout le monde, coopération et que les politiciens laissent les techniciens travailler et qu'ils ouvrent les esprits parce qu'en fait, protéger, on perd, mais ouvrir, on gagne de l'autre côté. Si on n'a pas...
On va terminer là-dessus. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté d'en débattre. Nous reviendrons sur la question et nous reviendrons vous voir pour savoir si les choses ont évolué. Et puis, nous parlerons très prochainement du transport routier. Parce que là encore, c'est beaucoup plus grave. Joindre Douala à Brazzaville en voiture, c'est quasi impossible. Même déjà Libreville, c'est limite. Alors que ce sont des pays voisins. On va en parler dans une autre émission. Merci monsieur d'avoir accepté d'y participer. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.